Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bienvenue dans cette capsule L'amour vaincra. Je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, prêtre religieux catholique. Et aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans le folklore anglais, trois éléments de la mythologie du roi Arthur, que vous pouvez retrouver en France à travers par exemple la série Camelot, mais qui pour nos contemporains d'outre-Manche a une signification religieuse, politique et spirituelle bien plus profonde qu'il n'y paraît. Et puis ensuite, nous irons du côté de l'évangile du jour. Nous commençons avec l'épée Excalibur du roi Arthur. La figure historique du roi Arthur est enveloppée de légendes et de mythes, et il est difficile de fixer une date précise pour son existence. Cependant, les historiens et les chercheurs situent généralement la période associée à Arthur entre fin du 5e et début du 6e siècle. Quant à l'épée Excalibur, ce n'est que plus tard, dans certaines versions de la légende, qu'elle apparaît. Par exemple, dans une de ces versions, après la mort du roi Uther Pendragon, une épée magique apparaît enchâssée dans une pierre, avec une inscription proclamant que celui qui pourrait l'en retirer, celui-là seul, serait le roi légitime. Et alors que de nombreux nobles échouent, le jeune Arthur, lui, réussit à extraire l'épée. Et derrière, il y a une signification religieuse et morale. L'épée est ici le symbole de la vertu. Des vertus que doivent exemplifier un roi, telles que la justice, mais aussi la force et le courage. Et que, en reconnaissant Arthur, ce qui est valorisé ici, c'est la valeur de ce roi. Et c'est d'ailleurs cette valeur qui donnera à l'épée Excalibur ses pouvoirs magiques. Passons maintenant à Merlin, ou plutôt Myrdhinn, de son véritable nom, une figure centrale des légendes arthuriennes, aux confins entre la mythologie celte, les traditions chrétiennes et la culture folklorique médiévale. Dans certaines versions, il est le fils d'une vierge et d'un démon, ce qui lui aurait conféré des pouvoirs surnaturels. Mais voici la véritable histoire de Merlin l'Enchanteur, d'après le plus ancien texte. Selon la vie de Merlin, écrit vers 1150 par Geoffrey de Monmouth, un jour, alors que Saint Kettigern priait dans la forêt, un homme nu, poilu et fou, nommé Lyloken, courut vers lui. Et c'est lui qui aurait donné naissance au personnage de Merlin. Toujours dans cette vie de Merlin, un roi local nommé Meldred fit capturer Merlin et l'emmena dans sa forteresse à Dumeller. Merlin divertit la cour de Meldred, mais révéla aussi que l'épouse du roi le trompait. Furieuse, elle complota sa mort et Merlin fut à la fois lapidé et frappé, empalé sur un pieu et noyé. Mais avant, il demanda à être enterré dans un cimetière chrétien et de recevoir encore auparavant la communion en tant que chrétien. Et voici encore un élément que peut-être peu d'entre vous connaissent à propos de la mythologie arthurienne. On l'appelle le siège périlleux. Un élément central là aussi de ces légendes, puisque ce siège est associé à la table ronde. Vous savez, cette fameuse table où se mettent les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire les chevaliers d'Arthur. Ce siège, autour de la table ronde, est réservé au chevalier qui sera pur et vertueux au point de pouvoir trouver le Saint Graal, le trésor sacré du christianisme. Ce siège, mentionné pour la première fois dans les récits médiévaux, notamment dans ceux de Robert de Boron, incarne une épreuve divine, un symbole de pureté, l'idéal que doit incarner le véritable chevalier. Nous sommes en plein effort de moralisation de la chevalerie au Moyen-Âge. Seul un chevalier exempt de péché peut s'y asseoir sans risquer la mort, ce qui souligne l'importance de la moralité et de la perfection spirituelle dans la chevalerie. Il représente aussi ce siège, la notion de destinée et de prédestination. Il est prophétisé que seul le chevalier digne de trouver le Graal pourra s'y asseoir sans danger, ce qui sera plus tard associé au chevalier Galahad, fils de Lancelot, Galahad qui incarne à lui seul la perfection de l'idéal chevaleresque. Le siège périlleux renforce ainsi le caractère sacré et redoutable de la quête du Saint Graal. Vous savez, ce vase, cette coupe dans lequel le Christ aurait mis du vin au dernier repas, disant « Ceci est mon sang versé pour vous ». La récompense ultime, trouver ce vase pour ceux qui vivent selon les plus hauts idéaux de la chevalerie et de la foi chrétienne. Je vous propose maintenant de passer à la lecture de l'Évangile du jour. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Un prophète n'est méprisé, disait Jésus, que dans son pays, sa parenté et sa maison. Le mépris. Ah, mon Dieu, que voilà une chose haïssable. Le mépris, ce n'est pas simplement la fatigue ou l'agacement ou le soupir ou lever les yeux au ciel. Tenez, souvenir de la vie religieuse. Je peux vivre avec des gens qui me fatiguent et qui m'agacent. Parce qu'ils arrivent, par exemple, tout le temps en retard. Je peux vivre avec quelqu'un qui arrive tout le temps en retard. C'est pénible, et on finit toujours par stresser pour savoir si l'office va commencer à l'heure ou pas, mais on survit. Je peux vivre avec quelqu'un qui fait toujours tout tomber. Ça finit par coûter cher, mais on survit. Je peux vivre avec quelqu'un qui dit des maladresses et parfois même qui dit des méchancetés. Parce que, écoutez, aujourd'hui c'est lui, et demain ce sera moi. Et puis parfois, comme on connaît ses frères, on finit par les aimer. Je peux vivre avec tout cela, je peux même vivre avec une personne qui ne m'aime pas. C'est difficile, parce qu'il faut prendre beaucoup de précautions, mais on arrive à trouver une sorte de terrain d'entente, de compromis. On a fini par comprendre les sujets que l'on pouvait aborder, les sujets que l'on ne pouvait pas aborder. On a fini par développer une certaine attitude qui va nous permettre de nous protéger un petit peu, et en tout cas de passer des repas, ou à défaut d'être des repas très fraternel, chaleureux et convivial, ce sera un repas OK. Donc je peux vivre avec tout ça, avec quelqu'un qui arrive en retard, avec quelqu'un qui fait tout casser, avec quelqu'un même qui ne m'aime pas. Mais, d'expérience, il y a une personne avec qui je ne peux pas vivre, et c'est une personne qui me méprise. Et cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé même plusieurs fois. Écoutez, voilà encore un autre souvenir de la vie religieuse. Mais vous savez que dans la vie religieuse, on mange tous ensemble et que chez nous, en tout cas les dominicains, les repas ne sont pas placés. Cela veut dire que chaque frère choisit la table à laquelle il va manger. Et voici. Dans un couvent où j'étais resté 6-7 ans, au bout de 3 ans, parce que je suis un peu lent d'esprit et assez naïf en fait, et qu'il y a des choses, je mets très longtemps pour les voir. Donc, au bout de 3 ans, je me dis, tiens, mais c'est curieux, ce frère-là en fait, je mange jamais avec lui. Et je réfléchis. Je me dis, oh, je vais quand même lui laisser un mois. Oui, parce que on n'est pas pressé. Et au bout d'un mois, je me dis, bah oui, j'ai pas mangé une seule fois avec lui. Ou, plus exactement, je m'aperçois que depuis ces 3 ans que je suis dans un couvent, les seules fois où j'ai mangé avec ce frère, c'était les fois où moi-même, de mon propre chef, je m'étais mis à sa table. Mais que jamais lui n'était venu à ma table. Et c'est là où je réalisais que consciemment, sciemment, il m'avait éjecté de sa vie. Je n'existais même pas à ses yeux. Et c'est ça le mépris. Le mépris, c'est quand vous pensez que la personne a tellement peu de valeur qu'en fait, la vie serait plus belle si elle n'existait pas. Il y a une phrase, quand on marie les gens, il y a une phrase dans la prière liturgique qui m'a beaucoup marqué, que je redis souvent. Chaque naissance ajoute à la beauté du monde. Eh bien, le mépris, c'est croire le contraire. Le mépris, c'est croire qu'il y a des naissances qui ont enlevé à la beauté du monde. Le mépris, c'est dénier à l'autre sa valeur, son existence. Et ça, c'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui vous méprise à ce point-là. Vous pouvez vivre avec quelqu'un qui ne vous aime pas et qui vous le dit en face. Vous pouvez vivre avec quelqu'un qui casse tout, avec quelqu'un qui fait des maladresses, avec quelqu'un qui a un mauvais caractère. Vous pouvez vivre avec tout ça. Mais avoir en face de soi une personne et dans ses yeux, vous n'existez pas au sens où elle vous méprise et vous a écarté de sa vie parce qu'elle vous a donné tout de valeur. Non seulement ce n'est pas possible, mais en plus, vous ne pouvez pas vous empêcher d'éprouver un certain sentiment de rage, de colère et d'injustice. Alors, c'est là maintenant où tout commence. Parce que quoi dire, quoi faire maintenant qu'on a dit ça? Alors, à lire le texte, la première chose que Jésus a fait en face du mépris des gens, c'était d'accomplir le minimum syndical. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Ensuite, de s'étonner sans trop en rajouter, il s'étonna de leur manque de foi et de partir. Et alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Parce que quand quelqu'un vous méprise, je crois en fait que le pire serait d'en faire une affaire personnelle. Vous voulez quoi? Vous voulez lui prouver votre valeur? Mais est-ce vraiment en face de cette personne que vous voulez prouver votre valeur? Vous voulez prouver que vous avez, vous aussi, le droit d'exister? Mais on n'en est plus là. Vivez votre vie et accomplissez, vous aussi, des miracles. Et si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs. Laissez passer. Et puis la deuxième chose qu'il faut, parce que tout cela n'a de valeur que si vous-même, vous ne méprisez personne. Et en fait, cela va très vite, parce que le frère qui me méprisait, c'était à peine inconsciemment, il n'avait pas posé de manière propre, claire et nette un acte de mépris, il avait simplement construit et réarrangé sa vie pour que je n'existe plus. Vérifiez donc vous-même que vous n'avez pas arrangé vous aussi une vie pour virer certaines personnes de votre entourage. C'est dur, mais c'est cela aussi le christianisme. Aimez tout le monde, les bons comme les injustes. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, lui qui fait tomber sa pluie sur les justes comme sur les injustes et qui le fait lever son soleil, sur les bons comme sur les mauvais. Vous-même, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et bien voilà, c'est la fin de cette capsule « L'amour vaincra ». Le dernier thème d'aujourd'hui, le mépris, était un peu plus grave, mais je sais que parmi vous, il y en a qui ont des vies qui sont pas faciles. À celle-là, je dis mon amitié, mon affection et ma prière. Courage, l'amour vaincra. Et à tous, je souhaite un bon dimanche. C'est la fin de cette capsule L'amour vaincra.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et sur le site internet et le réseau Discord en tapant L'amour vaincra.